Radio Louise Michel,
la radio des collégiens de Ganges.
Radio Louise Michel, des blagues, des musiques, des infos, des interviews et encore plein d'autres choses sur Radio Escapade.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Louise Michel, votre émission radio préférée en direct du CDI du Collège Louise Michel. Et c'est d'ailleurs la dernière émission de cette année. Je suis Thaïs et à mes côtés ma collègue Amanda, comme toujours. Comment ça va aujourd'hui Amanda ?
Ça va super Thaïs, je suis vraiment excitée par l'émission d'aujourd'hui. Nous avons des chroniques incroyables préparées par nos camarades. Et on commence avec Ilao qui est parti enquêter sur les relations amoureuses au collège.
La drague se passe plutôt en extérieur ou sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres ?
Sans l'extérieur.
En extérieur.
Extérieur ?
Sur les réseaux sociaux.
Bah non,
sur les réseaux sociaux.
Moi c'est l'extérieur.
Alors moi j'en sais rien. Mais je pense plus que l'extérieur c'est mieux que les réseaux sociaux et les sites de rencontres.
C'est mieux, mais est-ce que y a vraiment de la drague sur les sites de rencontres ou les réseaux sociaux ?
Bah, y a des risques que ce soit pas des vrais sentiments.
Moi, je dis ça se passe plutôt sur les réseaux sociaux parce que la plupart des jeunes ils passent leur temps sur les réseaux sociaux.
Est-ce que les relations au collège peuvent durer ?
Ça dépend.
Ouais.
Ça dépend si c'est parce que si c'est en sixième ou en troisième. Ça dépend.
Non.
Oui.
Ça dépend.
Ça peut durer au moins 10 ans
jusqu'à
que tu te maries.
Ça dépend.
Oui, si l'amour est sincère et que les deux personnes s'entendent bien, etc., moi je dis que oui.
Non, littéralement non.
En gros, tout ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de cris. Après, ils trouvent des filles beaucoup plus belles. Du coup, ça n'accepte pas, on ne tolère pas. Et il y a des fois des tromperies, des trucs comme ça. Du coup, ça ne dure pas.
Si vous êtes avec quelqu'un en couple, vous le dites à vos amis, à votre famille ou non ?
Je dis à tout le monde.
Moi, je serais capable de l'assumer, mais si t'as pas l'écran ?
Non, parce qu'elle peut savoir et elle peut me quitter facilement. Yeah.
Alors oui, je le dis à mes amis proches, et je leur dis tout simplement, je suis en couple avec telle personne. Et
à ta famille ?
Je laisse un peu plus de temps passer parce que... La famille, c'est un peu plus important. Enfin, je laisse passer un peu plus de temps quand même avant de leur dire.
Je sais pas, moi, je le fais, oui. Pas mes parents, parce que je veux pas que mes parents soient au courant.
Aïe.
Parce qu'ils me saoulent après.
Aïe.
Et à mes potes le savent, mais si on me demande, je dis non. Parce
Quel
que j'ai pas envie. Mes potes, mes amis, quoi.
Ah.
Genre lui, il le saurait.
Non, je littéralement pas.
Non. Non.
Ni à vos amis, ni à votre famille ?
Amis, oui, mais pas la famille. Après, si je suis grande, si j'ai 18 ans, 19 ans, oui, je le dis, mais là, je suis jeune.
Selon vous, les relations homosexuelles sont-elles faciles à assumer ?
Oui. Oui.
Non.
Pourquoi ?
Parce que c'est interdit.
Ah, ok.
Non. Non.
Pourquoi ?
Parce que c'est pas bien.
Ouais.
Ah bon ? En toute facilité ?
Ouais.
Je pense pas. Enfin, en fait, ça dépend des gens. Moi, si je l'étais, j'assumerais pas forcément pour l'instant, mais plus tard peut-être.
Non,
pas du tout.
Non.
Parce que si vous voulez savoir, il y a des grosses conséquences. Soit des moqueries, ou soit avec tes meilleurs amis, ils peuvent te trahir. Ok, Ilao, j'ai une question. Est-ce que tu tolères l'amitié fille garçon ?
Oui.
Ok, pourquoi ?
Je sais pas, moi je pense que ça peut exister, hein. T'es pas forcément en couple avec une fille parce que tu la fréquentes.
Non, franchement, il y a des potes, j'ai des potes à moi, ils sont potes avec des garçons. Ça marche,
ok.
Hein.
Oui, ça marche, je suis d'accord. Bon, du coup, merci.
Voilà, au revoir.
Ouais.
Merci Léo pour cette interview. Et toi, qu'en as-tu pensé?
J'étais assez étonné des différences des réponses. Alors, je pensais qu'elles allaient quand même faire réagir, mais il y a eu beaucoup de différences et je pensais pas que ça allait être aussi flagrant. Hein. Au niveau des couples homosexuels ou autre chose. Après, dans l'idée, c'est quand même ce que... on voit par exemple sur la première question, celle où se passe la drague. Ce qu'ils ont dit, c'est que globalement, ça se passait peut-être plus sur les réseaux sociaux, mais qu'ils avaient envie que ça se passe aussi en réel, qu'il y ait finalement de la drague en extérieur, où les gens se voient vraiment, où ils savent qu'ils ont devant eux et que c'est en toute transparence. Après, est-ce que c'est vraiment le cas sur des estimations, ça, je ne sais pas vraiment vous le dire. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, les animatrices?
Moi, c'est un peu comme toi. Et toi, Thaïs?
Je trouve que c'est un sujet qu'on n'aurait pas pensé de faire et que c'est bien de l'avoir fait pour avoir l'avis du collège.
RLM, la radio qu'on aime.
Mélanie est avec nous pour nous parler de son sujet qui monte, l'escalade. Alors Mélanie, que peux-tu nous dire sur ce sport?
Bonjour, je m'appelle Mélanie. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'escalade. Pour commencer, on va faire des questions rapides et après, nous parlerons du matériel et de la sécurité. Quand a été créée l'escalade? Alors, l'escalade a été créée vers 1890. Et attends, qui a créé l'escalade? Ce n'est pas une pierre qui a créé l'escalade, mais Paul Preuss. Le matériel en escalade. En escalade, il y a le baudrier qui sert à tenir le corps vers le vide. Je veux dire, ça sert à grimper haut pour les professionnels. C'est facile de monter sans, mais redescendre, c'est pas super facile. Sinon on se casserait la gueule si en sautant. Après, le mousqueton sert à tenir le système d'assurage pour la sécurité de la personne qui monte. Il y en a deux, qui peut faire tomber la personne si on lâche la corde principale, et deuxième qui est avec beaucoup plus de sécurité. Exactement. Ensuite, il y a des chaussons esprit pour l'escalade. Et pour ne pas se faire mal aux pieds, perso, je n'aime pas du tout ces chaussures, car c'est serré. La sécurité en escalade. Petite info en escalade, il n'y a pas le côté intérieur. Il y a aussi le côté extérieur qui est avec beaucoup plus de danger, car il faut escalader sur les falaises. En escalade, il y a beaucoup de dangers. Si ton assureur ne t'assure pas bien, il peut avoir des accidents qui vont faire assez mal. Je pense qu'il faudrait bien aller à l'hôpital s'il y a ce genre de problème. En escalade, tu peux te faire une entorse, des fractures, des blessures. Des blessures pas très agréables à supporter. Au revoir, j'espère que vous appréciez notre chronique. C'était Web Radio, Collège Louise Michel, et hâte de vous revoir.
Très intéressant, Mélanie. Merci, Mélanie. Très intéressant, Mélanie. Merci pour cette lecture. Est-ce que tu le pratiques, l'escalade?
Oui, je le pratique.
Et t'aimes bien?
Ouais.
Ça fait souvent que t'en fais?
Un an.
Un an? Et c'est quoi qui t'a donné envie de faire de l'escalade?
Parce que tu peux escalader, tu fais du sport et tout, et des fois tu peux être en plein air en plus.
Et toi, ça te dépense bien ou pas?
Oui, t'inquiète.
C'est bien sportif.
Ah oui. Après le lendemain, t'as des...
courbatures.
C'est ça.
Merci. Et maintenant, changement de décor avec Adam qui va nous parler de la mode.
Bonjour, je suis Adam et je vais vous parler de quelques créateurs de mode qui, pour moi, ont révolutionné le monde de la mode. Par exemple, Coco Chanel avec le sac 2.55, Thierry Hermès avec le Kelly et le Birkin, qui sont d'ailleurs accessibles que par les gens qui sont clients quotidiennement chez Hermès, et Martino et Mario Prada avec le sac Besace Cléo, avec sa forme en forme de U. Pour moi, une marque coréenne qui a monté en ce moment grâce à l'idol Jennie de Blackpink, avec la box Jennie de Blackpink, où il y a des lunettes et des accessoires qui sont aimantés aux lunettes et qu'on peut changer. Après, il y a Gucci avec la ceinture, logo Gucci. Et le sac Louis Vuitton Carial Cargo PM. Et les tendances en ce moment, ça serait un baggy beige qui tombe sur les pieds. avec les Nike More Up Tempo et les lunettes de Jennie de Blackpink, les lunettes Gentle Monster avec la forme rectangulaire. Et petite anecdote, le logo Coco Chanel, c'est parce que la créatrice Coco Chanel a pris le C de son prénom et le C de son nom de famille.
Toujours au top, Adam. Et pour continuer, Pacom va nous éclairer sur la vie d'un technicien. Pacom, dis-nous tout sur les coulisses de la techno.
Salut, moi c'est Pacom. Moi je suis technicien dans toutes les émissions. Donc c'est un peu un tableau de bord avec plein de boutons. Donc il y en a qu'on monte, qu'on descend pour activer les micros ou quoi. Après, il y a d'autres boutons pour activer les sons. Il y a un bouton pour commencer à enregistrer. Il y a des boutons de volume. Et après, derrière la machine, il y a plein de trous pour mettre les câbles des micros, des casques et pour brancher le truc. Après, sous les micros, on peut appuyer sur un bouton pour que quand il parle, ça enregistre pas, mais juste il parle dans le micro, mais ça enregistre pas. Après, on peut aussi muter les micros. Après, il y a un petit écran tactile pour faire des réglages, et voilà.
Et qu'est-ce que t'aimes dans le rôle de technicien?
Moi, c'est que j'aime pas trop de base parler dans le micro et que j'aime bien le truc de la technologie et les boutons comme ça.
D'accord. Et ouais, du coup, ça fait combien de temps que tu fais là?
2 ans.
2 ans. D'accord. Merci beaucoup.
Et aussi, tu nous as parlé de muter, mais peut-être que nos auditeurs ne savent pas ce que ça veut dire.
Par exemple, là, je parle et si j'appuie sur le bouton, vous m'entendez plus. C'est... Ça coupe. Ça. Voilà.
Merci.
Au revoir. Bonne journée.
Et pour finir, Olivia et Adam, vous nous parlez du club lecture du collège. Olivia et Adam, quelles sont les dernières pépites littéraires à ne pas manquer?
Bonjour, c'est le club lecture et on va vous présenter le carnet de l'apothicaire.
J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce premier tome des carnets de l'apothicaire.
Je sais que tout le monde en parle et en bien depuis sa sortie et le manga me faisait de l'œil, mais je n'étais pas encore décidée à franchir le pas.
Après avoir fini Space Family, je voulais me lancer dans quelque chose de totalement différent et ce fut totalement le cas.
Je ne savais pas à quoi m'attendre en commençant les carnets de l'apothicaire.
Je savais que l'on suivait une jeune femme douée pour les potions et les poisons, remèdes au sein de la cour impériale, mais sinon, rien de plus.
Et je ne m'attendais pas à ce ton plutôt léger et drôle.
J'espère que cette ambiance perdurera, car c'est inédit, un atout de poids pour moi.
Entre le fait que Mao Mao se moque bien de toutes les futilités qui l'entourent et son obsession pour ses expériences, Jinchi, qui manigance à tout va et ne peut pas résister au regard dégoûté de notre héroïne.
Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire durant toute ma lecture et cela fait un bien fou.
J'aime aussi la bienveillance du groupe dans lequel Mao Mao a atterri.
Alors que l'on se trouve avec l'une des concubines préférées de l'empereur, j'avais un peu peur de tomber dans un milieu où les jeunes femmes allaient se tirer dans les pattes.
Ou se montrer mesquines, mais il n'en est rien et là encore, je trouve cela aussi rafraîchissant qu'adorable.
Et j'ai l'impression aussi que notre jeune héroïne pourra s'épanouir tout en apprenant énormément.
Et j'ai hâte.
D'ailleurs, parlons un peu de notre héroïne. Je l'adore, Mao Mao, sort carrément des sentiers battus. Elle est un peu une nerd bien avant l'heure. Drôle à ses dépens, intelligente, observatrice, elle ne se laisse pas démonter.
Pour ce qui est de l'histoire, pour l'instant, je pense que les mangaka ont voulu poser les bases.
Avec quelques petites aventures, on apprend à connaître les différents personnages, environnement particulier dans lequel ils se trouvent.
Et aussi, la place que va prendre Mao Mao, c'est très bien fait. Surtout qu'entre l'ambiance et les différents événements.
On se prend au jeu rapidement.
Le premier tome des carnets de l'apothicaire a donc su totalement me convaincre.
J'ai fait une petite appréhension car je suis toujours prudente avec les œuvres qui cartonnent sur la toile, mais là j'avoue que ce n'est pas volé du tout.
Vivement la suite.
LM,
la radio du collège Louis Michel non truqué.
C'est sur Radio Escapade.
Merci Olivia et Adam. On passe à Valentine qui va nous parler du manga Flying Witch. Une sorcière qui vole, non ?
Effectivement, Flying Witch signifie la sorcière volante. Je commence. La jeune Makoto emménage chez son cousin Kei et sa jeune cousine Shinatsu qui a 6 ans. Plongeant de sorte dans une sorte de tranquillité, hors du temps. Mais ce repos est de courte durée, car Makoto est une sorcière, en apprentissage. Mandragore, sortilège, humour et tendresse, suivi de grosses gaffes, sont au rendez-vous. J'adore ce livre, car il y a assez de suspense et d'humour pour me donner envie de le relire le lendemain. Ensuite, aussi, comme moi, la jeune Makoto a une sœur. Une grande sœur. Même si moi, c'est plutôt une petite sœur. J'adore ce personnage. Parce que Makoto est assez drôle et effectivement pas du tout débrouillarde. Elle se perd tout le temps. En permanence, elle n'arrive jamais à retrouver le chemin de sa maison. J'ai fini.
Merci beaucoup Valentine pour nous avoir parlé de ton fameux livre qui a l'air très bien.
Oui, un grand merci à tous et bien sûr à vous qui nous écoutez. Nous espérons que vous avez apprécié l'émission et que vous vous sentez inspiré par cette histoire.
Pour donner un petit avis de chroniqueuse, moi je trouve que c'est super sympa de faire ça parce que du coup on peut interagir sur tous les sujets, donner notre avis, parce que du coup on prend le temps d'écouter tout ce qu'ils disent et aussi gérer un petit peu la parole de tout le monde et tout et tout. Je trouve ça bien et aussi ça donne un repère parce que du coup nous ça fait depuis le début de l'année pratiquement quand on y est et du coup à force ils sont habitués à nous. Enfin, moi, personnellement, ça fait 2 ans, mais Amanda, ça fait 1 an. À toi, Amanda.
Exactement. Moi, c'est un peu pareil que toi, mais j'aime bien lire, j'aime bien tout ce qui est vers la lecture. Et là, d'interagir avec les autres, c'était cool. Et en bonus, nous allons écouter Moussa, qui a fait son interview. Bonjour, Moussa.
Bonjour.
Aujourd'hui, tu vas nous raconter d'où tu viens. Quelle est ta langue ? Comment es-tu arrivé ici ? Pourquoi es-tu parti ? As-tu été à l'école là-bas ? Et est-ce que c'est pareil ici ?
Je viens de la Côte d'Ivoire, précisément de la ville de Boaké. La langue officielle de la Côte d'Ivoire, c'est le français. Et nous avons d'autres langues maternelles, comme le djoula, le bété, etc. J'ai quitté mon pays, la Côte d'Ivoire, quand mon père est décédé. J'étais élève dans un collège privé de Boaké. Je vivais avec mon père et ma mère dans un banlieue de la ville de Boaké. Mon père était planteur, chauffeur de camion poids lourd. Mon père était beaucoup alcoolique. À tout moment, il battait ma mère devant moi, à tout moment, presque tout moment. Donc un jour, malheureusement, il a fait un accident et il n'a pas pu survivre. Ses frères, ses cousins, ils ont récupéré tout ce qu'il avait comme bien. C'est-à-dire sa moto, ses champs et quelques affaires de la maison. Donc nous sommes retrouvés sans rien. Donc tout était devenu compliqué pour moi et ma mère. Ma mère, elle était malade, donc elle ne pouvait pas travailler. Donc il n'y avait personne pour payer mon école. Donc je suis resté comme ça. Et le propriétaire de la maison est venu réclamer l'argent de sa maison. Vu qu'elle n'a pas les moyens pour payer, il a dû nous chasser. Donc ma mère m'a confié à l'une de ses cousines. Et elle est partie chercher de l'aide. Donc de là, je partais chaque matin à la gare routière derrière les amis de mon père pour pouvoir avoir un peu de sous pour m'acheter à manger. Donc vu depuis ma mère partie, j'avais plus de ses nouvelles. J'étais toujours à la gare avec les amis de mon père. Vraiment, c'était difficile, très très difficile. Et les frères de mon père étaient très très méchants avec moi. Donc je me suis retrouvé tout seul, sans famille, rien. C'est de là que j'ai décidé de prendre mon avenir à deux mains et j'ai pris la route du désert. C'est de là du désert je suis parti au Mali avec un ami à mon père, du Mali en Algérie. En Algérie, c'était compliqué là. Pour arriver en Algérie, c'était beaucoup compliqué, beaucoup marché. On a beaucoup marché pour entrer en Algérie. Et de l'Algérie, maintenant, nous étions dans la ville d'Alger. de là, nous avons embarqué une nuit avec plusieurs personnes, des enfants et tout, des femmes, dans une voiture appelée pick-up.
Des pick-up?
Ouais. Je ne sais pas si tu connais des pick-up, c'est des, un peu des camions.
Des 4x4.
Ouais, des 4x4 camions, oui. Mais derrière, il n'y a pas de...
Pas de vent, oui. En haut, il n'y a pas de toit.
Il n'y a pas de toit, c'est ouvert. Nous étions dans des voitures comme ça. Nous étions très, très nombreux dans cette voiture. Et le chauffeur roulait sans phare, dans le noir, sur le désert, sans phare, et à une vitesse très, très énorme. Mais au fur et à mesure que nous voulons, celui qui tombe, il reste là-bas. Tous ceux qui tombent de la voiture, on les laisse. Nous sommes partis jusqu'à arriver en plein milieu du désert. C'était le matin, le chauffeur a garé et il nous a dit, nous sommes presque arrivés en Tunisie. Il nous a dit, nous sommes à quelques kilomètres de Tunisie. Oh, c'était fou. Nous avons marché toute la journée jusqu'à Tunisie. Et de la Tunisie, nous avons croisé d'autres personnes qui étaient à la frontière de la Tunisie-Algérie, que nous avons pris pour pouvoir se reposer un peu, les maisons un peu abandonnées, pour pouvoir se reposer un peu. Et d'autres passeurs sont venus, ceux qui sont chargés de faire traverser les gens, sont venus nous chercher pour nous envoyer dans une autre ville. Et c'est de là-bas que tout a commencé. Vu que je ne travaillais pas, je n'avais pas d'argent pour payer le transport du voyage. Puisque le voyage en Tunisie, ça coûtait 3000 dinars. 3000 dinars tunisiens, ce qui vaut un truc de 800 euros ou 900 euros. Donc je n'avais pas du tout les moyens pour le payer. Je n'avais absolument rien. Je ne savais pas qui appeler. De là, j'ai voulu abandonner le voyage, me retourner de la Côte d'Ivoire. Mais quand je pense que j'ai personne là-bas pour m'aider, de là, j'ai dit non, je dois forcément partir. Tout ce qui va m'arriver, c'est la volonté de Dieu. J'étais déjà motivé. Et c'est de là que je suis parti. J'étais avec les pasteurs. J'ai cherché du boulot. Personne n'a voulu me prendre pour travailler. Personne. Donc c'est le pasteur qui m'a appris de m'occuper de la maison. C'est moi, je faisais tout et tout dans la maison. Je faisais le ménage de la maison. Je lavais les linges, tout. C'est moi, j'ai arrangé la maison. Et souvent, je partais enlever des olives pour avoir un peu de sous, mettre 6 mois. Pour manger, c'était... Au début, pour manger, c'était très compliqué. On demandait un peu de morceaux de pain à chacun pour pouvoir avoir quelque chose dans les vannes. Et nous avons préparé un voyage. Nous sommes partis au bord de l'eau. Nous sommes montés dans des baraques en fer. Et nous avons pris la route pour la Méditerranée, plus précisément à Lampedusa. Mais malheureusement, quelques heures plus tard, les gardes-côtes tunisiens nous ont arrêtés. Ils nous ont fait retourner. Et ils ont tout pris. Donc nous sommes retrouvés à zéro. C'est là le pasteur m'a dit, je ne peux plus me garder chez lui, de me débrouiller moi-même. Donc je n'avais pas de quoi où aller. Là, je dormais dehors et je dormais dans les champs d'olives, tout seul, jusqu'au mois de décembre. Je dormais que souvent, je faisais des travaux d'olives. C'est là quand j'ai croisé M. Abdallah. Et M. Abdallah, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. C'est grâce à lui que j'ai pu voyager. Puisque l'économie que j'avais, c'était 600 dinars. Et il m'a pris, ils ont fait un convoi et il m'a mis dans ce convoi qui était prévu le 20 décembre. Le 20 décembre 2022, nous sommes partis au bord de l'eau. Nous étions nombreux. Ceux qui ont pu monter sont montés. Nous avons pris la route le 20 décembre. Nous sommes arrivés sur la zone internationale le 21 décembre, le 21 soir. Et nous avons été secourus par les gardes des côtes italiennes. Et nous envoyaient sur une île appelée Lampedusa. Et avant Lampedusa, j'ai été soigné immédiatement. De Lampedusa, ils ont transféré dans une ville qu'on appelle Sicile. Dans la ville d'Italie, on appelle Sicile. On nous a transféré là-bas. Donc, vu qu'il y avait la fête de Noël qui approchait, donc nous sommes restés à Sicile jusqu'en le 26 décembre. Et le 26 décembre, on nous a transféré un peu dans l'Italie. Moi, j'étais à Vérone. Nous sommes restés là-bas un mois. Donc, quand nous étions là-bas, j'ai croisé d'autres personnes là-bas, des Ivoiriens, des Maliens, des Nigériens et des Camerounais. Donc nous étions tous dans le même hôtel. Comme c'était un foyer de mineurs, nous étions tous ensemble là-bas, tout et tout, on faisait tout ensemble. Donc par contre, il y a d'autres qui voulaient aller en France. Bon, moi, chez la France, je connaissais uniquement que Paris. Je voulais aussi, comme en Italie, je ne comprenais absolument pas la langue. Donc on ne pouvait rien demander, puisqu'on ne comprend pas la langue. Donc j'avais dit que, je vais partir avec eux en France. Mais j'avais pas l'argent. Donc nous sommes sortis un jour pour aller se promener au centre-ville, moi avec d'autres amis. En dehors de retour, je suis venu trouver qu'eux, ils sont partis. Donc il y a d'autres encore qui voulaient partir. Donc on a attendu chaque jour, on nous donnait 2 euros. 2 euros, 2 euros chaque jour. Pendant 15 jours, on nous donne. Donc nous avons attendu. Quand nous avons fait les 2 semaines, nous avons pris notre argent de semaine. Ça faisait 30 euros, 35 euros. Chacun a pris ça. Quand on a pris notre argent de semaine, le même soir, nous sommes partis à la gare de train de Vérone. Nous avons volé le train. Au fur et à mesure, quand on croise les contrôleurs, ils nous font descendre du train. Donc nous avons continué comme ça jusqu'à Milan. À Milan. De Milan, nous avons pris un autre train encore pour nous rendre à la frontière de la France, France-Italie, à Ventimiglia. Donc c'est de là maintenant, nous avons pris le train. Et puis la police française nous a arrêtés. Ils nous ont envoyés dans un commissariat de police, voilà, pour vérifier les identités, tout et tout. Donc comme nous avons vu les mineurs, ils nous ont envoyés dans un foyer qui était dans la ville de Menton. Oui, j'ai fait tout le mois de février là-bas. Je suis parti à l'hôpital. Je suis allé faire des analyses du sida, des tests du sida, de la tuberculose et puis le corona. J'ai fait tous ces tests. Et après, maintenant, j'étais à Nice. Je m'en vais à Nice pour aller faire tests d'évaluation et les tests des os. Vérifier vraiment si je suis mineur. Et puis faire une évaluation orale. Et après tout ça, maintenant, quand j'ai été. Ça a été validé, ils m'ont transféré à 7. J'ai fait tout le mois de mars là-bas, mars, mai et juin. C'est le 15 juin, ils m'ont transféré de 7 à Gange, où je suis aujourd'hui. Je peux dire, par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. C'était un peu ça, mon histoire.
Et est-ce que c'est pareil ici?
Bon, l'école en Côte d'Ivoire, l'école de la Côte d'Ivoire et la France, il y a une grande différence. Ce que j'ai remarqué en France, à l'école, dans les classes, il n'y a pas plus de 30 personnes. Par contre, en Côte d'Ivoire, nous sommes plus de 80, 70 dans des classes, dans une salle de classe.
Et est-ce que c'est plus difficile?
Oui, je trouve que là-bas, c'est plus difficile qu'ici. Plus difficile.
Est-ce que tu aimerais retourner en Côte d'Ivoire?
Oui, puisque j'ai ma mère là-bas. Si tout va bien, j'espère que vous tenez un jour.
Merci.
Radio Louise Michel.
La radio des collégiens de Gorges.
Radio Louise Michel, des blagues, des musiques, des infos, des interviews et encore plein d'autres choses sur Radio Escapade.